Bonjour, l'aéroport de Genève restera fermé jusqu'à 18h ce soir. Près de 25 cm de neige sont tombés en 24 heures seulement sur la seule ville de Genève. Nous ferons le point avec la chef de notre bureau genevois, Sylvie Belzer. Karine Suigny est allée à la rencontre des passagers bloqués depuis hier soir et c'est la résignation qui domine, vous l'entendrez. Nous demanderons à Valérie Muster de la Fédération romande des consommateurs comment les passagers restés en rade vont-ils pouvoir se faire rembourser à présent. Coup de pouce aux paysans ce matin sous la coupole. Le National a décidé d'augmenter de 45 millions de francs les suppléments accordés à l'économie laitière et ce malgré l'opposition d'Evelyne Widmer-Schlumpf ou du camp Rose Vert, nous dira Pascal Genra. Nous nous intéresserons aux Swaziland à l'occasion aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce pays détient le taux d'infection de VIH le plus élevé du monde. Sur place, Médecins sans frontières fait appel à des patients experts. Ce sont des malades qui vont à la rencontre d'autres malades vivant dans des lieux reculés, sans possibilité de se déplacer pour se soigner. On l'a beaucoup entendu se battre contre le téléchargement illégal, il se confie dans un livre. Sans contrefaçon est publié chez Fayard. Pascal Nègre, le PDG d'Universal France depuis plus de 15 ans, sera notre invité. Barbara, Johnny Hallyday, Stéphane Eicher ou Rihanna, l'homme a signé beaucoup de grands noms de la musique. Pascal Nègre sera avec nous en fin de journal. La neige va encore tomber, mais de façon moins importante que ces dernières heures. Les températures seront généralement négatives ou proches de zéro. Toutes les prévisions météo de Pascal Bénard dans une demi-heure. Et le réveil s'est donc fait sous la neige ce matin sur une majeure partie de la Suisse romande, surtout la région de l'Arc Lémanique. Genève détiendra un record en fin de journée. Il y sera tombé 30 cm de neige en 24 heures. On se rend tout de suite à Genève. La neige y continue de tomber, mais les routes commencent à être bien dégagées. La circulation, certes très ralentie, se fait sans accroc majeur, Sylvie Belzer.
Oui, tout se passe finalement étonnamment bien en termes de circulation. La neige a été dégagée des axes principaux, même si la chaussée reste recouverte d'un mélange neige-sel qui, pour être praticable, nécessite des pneus d'hiver. Selon la police, les accidents ont été minimes. Depuis les chutes de neige hier, en fin d'après-midi, 25 accidents mineurs, de la tôle froissée essentiellement et 4 blessés légers. Les trottoirs sont dans leur grande majorité bien dégagés. Beaucoup de piétons donc en ville de Genève et des bus qui circulent à nouveau quasiment normalement. 85% du réseau est opérationnel, même si les trolleybus, ces bus à accordéon, ont un peu de peine, l'un d'entre eux étant carrément accidenté à Villereuse. Le réseau de tram, quant à lui, a toujours pu circuler normalement. Des perturbations réduites sans doute aussi par le fait que beaucoup de gens ont simplement laissé la voiture au garage ce matin pour ne pas prendre de risques. À noter que nous sommes aussi mercredi, jour de congé des écoliers, ce qui explique aussi le peu de trafic. Côté autoroute, aucun problème à signaler. Le gros bémol reste l'aéroport. L'info est tombée à midi, il ne rouvrira pas avant 18h et seulement si la neige s'arrête de tomber d'ici 13h. 200 passagers en rade ont dû être acheminés vers des abris PC la nuit dernière. Une première, selon le porte-parole de l'aéroport. Genève ne disposant plus d'aucune chambre d'hôtel disponible, des passagers qui voient arriver la perspective d'une deuxième nuit en abri PC.
Sylvie Belzer, en réalité, les problèmes ont presque été plus aigus hier.
Oui, hier, il y a eu un cumul malheureux de plusieurs choses. Beaucoup de trafic, les gens ne s'attendaient pas forcément à avoir de telles quantités de neige en si peu de temps et circulant sans équipement adapté. À cela s'est encore ajouté une panne des CFF et un aéroport fermé. Genève s'est donc retrouvée passablement paralysée, d'autant qu'il n'y avait plus une seule chambre d'hôtel disponible, normale. Selon l'Office du tourisme, Genève accueille énormément de congrès, des réunions aussi des organisations internationales. Les hôtels sont donc saturés la semaine, parfois pour un congrès. Les chambres se réservent plusieurs années à l'avance. Il n'y avait donc hier soir plus aucune marge de manœuvre pour les voyageurs restés à quai ou sur le tarmac.
Et donc vous venez de l'entendre, l'aéroport de Cointrin est fermé jusqu'à 18h au moins. Karine Suigny s'y est rendue ce matin, vous allez l'entendre, l'heure était plutôt à la résignation du côté des voyageurs.
Ben nous, ça fait depuis 4h30 qu'on est là, donc on attend. Et les nouvelles ne sont pas très optimistes.
On était dans un hôtel, dans un Holiday Inn un peu loin, donc la navette ne marchait pas, ne roulait pas, donc on a utilisé du covoiturage dans un taxi avec quelqu'un d'autre qui nous a amené là, puis maintenant ben, on attend quoi.
On supporte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Ben, effectivement, c'est les éléments qui se déchaînent, on n'y peut rien, et les organisateurs des vols non plus n'y peuvent rien. Mais il est évident qu'on s'attendait à ce que la piste soit dégagée. Voilà, c'est tout. On n'est pas super fâchés. Mais...
J'ai travaillé hier soir déjà, donc les gens ils étaient un peu paniqués quand même, hein, parce que comme il n'y a pas d'hôtels, pas de transport, ils ont dû rester à l'aéroport. Hein. Mais en général, comme vous voyez, les gens ils sont assez tranquilles. Je crois qu'ils acceptent avec la neige, on ne peut pas grand-chose.
Ben nous, nous sommes avec un ami architecte, on va sur Djerba et nous, nous attendons si on nous confirme ou pas que le vol est annulé. Voilà.
Vous êtes en quel état d'esprit ?
On fait confiance aux Suisses.
Ça me dérange parce que j'ai rien à faire. Et après, il y a un moment où je m'ennuie, alors oui, ça me dérange.
Un peu contrarié quand même, parce qu'en plus, on ne sait pas du tout comment ça marche. Comme on en plus, pour la première fois, on a pris un avion low cost. Donc au niveau des remboursements, on est un petit peu plus inquiet que si c'était une compagnie internationale. Et puis bon, de toute façon, dans tous les cas, ça nous enlève un jour de notre semaine de congé puisqu'on partait en Égypte.
Your attention, please. Due to the heavy snowfall, Geneva Airport is closed.
Voilà donc pour l'aéroport de Genève ce matin. Bonjour Valérie Muster.
Bonjour.
Vous êtes juriste à la Fédération romande des consommateurs. On vient d'entendre ce passager s'interroger sur le remboursement de son billet, notamment parce qu'il a pris cette fois-ci seulement une compagnie low cost. Les passagers qui n'ont pas pu prendre leur avion depuis hier soir, est-ce qu'ils ont droit au remboursement du billet ?
Alors, si le vol est annulé, oui, effectivement. Si le vol est retardé et qu'il y a un retard de plus de 5 heures, également droit au remboursement du billet, oui. Alors, et peu importe que ça soit une compagnie low cost ou une autre compagnie, le règlement européen est applicable à tous.
C'est ce que j'allais justement vous demander. Donc, les clients et les voyageurs EasyJet ou d'autres compagnies ne s'inquiètent pas. Le remboursement pourrait être effectif aussi, hein.
Alors effectivement, les droits sont les mêmes. Après, il y a la rapidité de la compagnie à respecter les droits qui peut changer d'une compagnie à l'autre.
Donc là, on a des conditions météorologiques assez exceptionnelles. Donc là, ça entre directement dans les droits des consommateurs.
Alors effectivement, lorsqu'il y a des circonstances extraordinaires, comme c'est le cas avec la neige qui tombe en abondance, certains droits persistent, d'autres sont simplement supprimés. Donc il ne faut pas s'attendre en tant que passager d'un vol annulé à bénéficier d'une indemnisation forfaitaire, comme ça peut être le cas en dehors de toute circonstance extraordinaire. Par contre, subsistent les droits d'être assisté, d'être informé, ça c'est très important, il y a ce devoir d'information de la part des compagnies aériennes. Et le droit d'être réacheminé ou d'être remboursé, comme je l'ai déjà dit avant.
Alors pour le remboursement, est-ce qu'il y a des compagnies qui jouent moins le jeu que d'autres ? Il faut quand même des fois taper du poing sur la table et il faut insister et dire aux personnes qu'ils ont des droits par rapport à ça ?
Oui, alors effectivement, il faut souvent soit aller au guichet ou sur le site de la compagnie aérienne. Là, une compagnie aérienne qui se veut sérieuse devrait déjà avoir sur son site bien en évidence le lien pour faire les demandes d'annulation ou de report pour faciliter les transferts de vol des passagers lésés.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de sorte de dédommagement, il n'y a pas que le billet, c'est vrai qu'il y a aussi tous les frais qui entourent ce genre de circonstances, notamment les nuits d'hôtel, etc. Le passager a droit à quoi concrètement ?
Alors le droit d'être assisté tel qu'il ressort de la réglementation européenne comprend le droit à recevoir des rafraîchissements et de la restauration. Tant que dure l'attente, d'être hébergé dans un hôtel.
Donc, même à 4 étoiles, en 5 étoiles
Alors, effectivement, on peut se poser la question. Là, les gens sont mis dans des abris de protection. Si un 4 étoiles ou un 5 étoiles de libre, il y a peut-être matière à creuser, de savoir si c'est la volonté de la compagnie aérienne de ne pas faire trop de frais ou si effectivement toutes les chambres 4-5 étoiles sont occupées. Ça, c'est à voir. Il y a aussi le droit à se voir rembourser donc le transport aéroport-hôtel. Donc les nuits d'hôtel, il peut y en avoir une ou plusieurs, hein, en fonction de quand le prochain vol est agendé. Et il y a aussi le droit de se voir proposer 2 appels téléphoniques gratuits ou bien messages. Donc, en aucun cas, les passagers doivent être laissés à leur compte. Quand il y a des retards, c'est un peu différent. Il faut que les retards dépassent 2 heures pour les vols courts, comme ça. Pour une annulation, par contre, ces droits sont bien réels.
Et d'ailleurs, ils sont tous expliqués sur votre site www.frc.ch. Valérie Muster, vous répondiez à l'invitation d'Aline Bassin. Vous êtes juriste à la Fédération romande des consommateurs. Bonne journée, merci beaucoup.
Merci.
Et le Conseil national fait une fleur à l'agriculture dans le cadre du budget 2011, pourtant marqué par un souci d'économie. Il a accepté ce matin par 102 voix contre 54 une rallonge de 45 millions de francs pour soutenir la production de lait transformé en fromage. L'UDC et le PDC soutenaient cette mesure. Ils ont été rejoints par plusieurs libéraux radicaux, mais aussi quelques socialistes, Pascal Genra.
Oui, majorité pro-agricole typique du Conseil national. Ce matin, trois partis étaient pourtant officiellement contre cette mesure. Le PLR, les Verts et le Parti socialiste, qui estimaient que les agriculteurs devaient assumer seule la baisse des prix du lait qu'ils ont induite en produisant trop. Mais c'est la position résumée par l'UDC fribourgeois Jean-François Rime qui l'a emportée.
Vous savez, dans ce genre de métier, l'adaptation au marché des quantités est relativement lente parce qu'il s'agit de bétail. Si vous éliminez le bétail trop vite, vous avez une chute du prix de la viande. Donc c'est un problème assez compliqué. C'est des sommes qui sont encore tout à fait raisonnables dans le contexte actuel.
Parole de fribourgeois que ne dément pas le socialiste Jean-François Steyert.
Je viens d'un canton où l'agriculture joue un rôle relativement important. On n'est pas sur un match gauche-droite dans le canton de Fribourg quand il s'agit de politique agricole. Puis c'est la raison pour laquelle les fribourgeois du groupe socialistes ont tous voté ce supplément concernant la production du lait.
Mais la majorité du PS a tout de même voté contre, à l'image du Genevois Carlos Omaruga.
Moi, sur le principe, j'avais rien de contre, mais je trouve scandaleux que ceux qui aujourd'hui ont soutenu ces 45 millions sont les mêmes qui ont refusé les 100 millions supplémentaires de l'aide au développement. On doit avoir aujourd'hui une vision globale, une vision de solidarité internationale, si on veut que et la Suisse et le reste du monde s'en sortent à moyen et à long terme.
Mauvaise humeur suite donc à la coupe de 134 millions au total dans l'aide au développement. Tel sera le gros enjeu de l'examen de ce budget au Conseil des États dès lundi, car le coup de pouce d'aujourd'hui aux agriculteurs semble d'ores et déjà acquis.
Et on reste à Berne où la loi fédérale sur les chiens dangereux est fortement compromise. Le Conseil des États a campé ce matin sur ses positions. Il a refusé de permettre aux cantons qu'ils le souhaitent d'être plus sévères que la Confédération. Une conférence de conciliation aura lieu demain matin pour tenter de trouver un compromis avec le national, Vincent Bourquin.
Un accord qui paraît très difficile pour le Conseil national. Il est fondamental que les cantons, qui sont plus restrictifs que la Confédération, puissent continuer à l'être. C'est le cas à Genève où certaines races de chiens sont carrément interdites. Mais les sénateurs et le Conseil fédéral exige que les mêmes règles soient appliquées sur tout le territoire suisse. Présent pour la première fois devant le Parlement avec son costume de ministre, Johann Schneidermann a même raconté que lorsqu'il se promenait avec ses chiens, il franchissait facilement quatre frontières cantonales. Le conseiller aux États bernois Werner Luginbühl est catégorique. Si le Conseil national ne revient pas en arrière, il rejettera toute la loi et il ne sera pas le seul. Alors n'est-ce pas un immense gâchis après des années de travaux ? Écoutez.
Oui, c'est le risque, mais c'est pas seulement la faute du Conseil des États parce que c'est aussi le national qui est pas prêt de chercher un compromis. Je ne crois pas que la population comprend qu'on a une loi fédérale et qu'on a supplémentaire des solutions cantonales.
En même temps, on l'a fait pour la fumée, par exemple.
Oui, mais c'est pas un bon exemple.
Rappelons que l'idée d'une loi fédérale sur les chiens dangereux date de 2005 et faisait suite à la mort du petit Souleymane tué par des pitbulls.
Vincent Bourquin en direct de notre studio du Palais fédéral. Et c'est une information originale de notre bureau tessinois. La jeune Marocaine au centre du scandale dit du Bunga Bunga qui éclabousse Silvio Berlusconi doit faire une apparition très attendue samedi dans une discothèque tessinoise. Mais l'arrivée de la jeune fille qui se fait appeler Ruby met le département tessinois de la justice dans l'embarras, Nicole Della Pietra.
Oui, pour son passage samedi soir dans la plus grande discothèque du Tessin, Karima El Marouk, plus connue sous le pseudonyme de Ruby, devrait percevoir un cachet estimé entre 30 000 et 50 000 francs selon des rumeurs persistantes. Alors qui dit rémunération dit travail. Or, du fait de sa nationalité, cette jeune citoyenne marocaine ne peut en aucun cas espérer profiter de la libre circulation prévue pour les travailleurs de l'Union européenne. Dès lors, son arrivée au Tessin exige l'octroi d'une autorisation de travail. L'ennui, c'est que les permis L, soit le statut à durée limitée octroyé par le passé aux danseuses de cabaret, n'existent plus. Du coup, la venue de la sulfureuse Ruby, qui avait été conduite à la résidence particulière de Silvio Berlusconi pour y participer à une partie fine, constitue un véritable casse-tête pour les autorités tessinoises. Une situation d'autant plus délicate que c'est Lele Mora, le manager des stars du show business en Italie, qui réside à Lugano et qui avait conduit la jeune Marocaine à la villa
d'Arcore du Cavaliere qui a organisé l'événement de samedi et un Lele Mora que rien n'arrête et qui jouit d'un vaste réseau de relations dans tous les milieux de part et d'autre de la frontière.
Nicole Della Pietra en direct du Tessin. Quatre membres de l'encadrement de l'équipe suisse de ski ont été victimes ce matin d'un grave accident de la route en Suède. Parmi eux, l'ancien skieur valaisan Steve Locher. Ces quatre entraîneurs du cadre B étaient en route pour participer à la reconnaissance de la piste avant un slalom de Coupe d'Europe. Au moins une des victimes a dû être héliportée vers un hôpital. Les trois autres ont été prises en charge par des ambulances. Dans le Jura, l'amnistie fiscale est un succès selon les autorités cantonales qui ont dressé un bilan ce matin. Cette amnistie en vigueur depuis le début de l'année restera appliquée jusqu'en 2014. Après un an, 300 fraudeurs se sont déjà dénoncés, soit un par jour. Ils avaient dissimulé une fortune de 60 millions de francs. Daniel Rieder.
60 millions de francs qui réapparaissent et 300 fraudeurs qui sont amnistiés, ça signifie qu'ils ne paieront aucune amende et qu'ils ne feront l'objet d'aucune enquête. Ils devront simplement payer un rappel d'impôt assorti qui plus est d'un rabais de 20%. Pour les collectivités publiques, ça représente malgré tout plus de 5 millions de recettes fiscales. Le chef du service jurassien des contributions, Pierre-Arnaud Fugue, est heureux.
Ah, effectivement, très satisfait. On arrive à nos objectifs puisqu'on s'était fixé 300 millions en 5 ans, donc 60 millions par année. Donc l'année n'est pas finie, on est déjà dans les objectifs, donc très satisfait effectivement.
Et tout porte à croire que ça va continuer l'année prochaine car les détenteurs de titres attendent justement l'année 2011 pour se dénoncer et ceci pour une raison bien précise. Il se trouve que le rappel d'impôt est calculé sur la base du montant le plus élevé dissimulé au cours des 10 dernières années. Or, comme l'explique Pierre-Arnaud Fugue, l'année 2000, il y a 10 ans, avait été fructueuse sur le plan boursier.
On sait que l'année 2000 a été une excellente année boursière. Donc les avoirs éludés sur des avoirs de titres étaient très élevés et comme c'est une année qu'on prend en compte dans le calcul, les gens vont venir nous annoncer les avoirs 2001 à 2010 en 2011, sachant que l'année la meilleure qui était l'année 2000 ne sera pas prise en compte.
Les 60 millions de francs annoncés jusqu'à présent par les fraudeurs jurassiens sont essentiellement constitués d'avoirs déposés dans des coffres, de l'argent, de l'or ou des bijoux.
Une permanence téléphonique pour les couples s'ouvrira le 6 décembre dans le Jura bernois, une prestation inédite mise en place par le Centre social protestant. C'est un espace d'écoute immédiat pour les couples et pour les familles. Bonjour Nicole Bonnet.
Bonjour.
Vous êtes conseillère conjugale au CSP en direct de notre studio de Bienne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le système de permanence téléphonique puisque vous avez déjà des consultations conjugales ?
Parce que cette offre est très différente de la consultation conjugale. La consultation conjugale, c'est quelque chose sur le long terme. C'est un espace de parole et de confiance qui se construit petit à petit. Alors que la permanence téléphonique, c'est une manière de pouvoir déposer rapidement auprès d'une professionnelle quelque chose qui s'est passé de manière à éviter l'escalade et à éviter qu'on pose des actes ou des paroles regrettables.
Donc on comprend bien que c'est pas une alternative mais bien un complément, consultation conjugale. C'est tous les lundis de midi à 14h. Pourquoi vous avez choisi le lundi, le week-end, des sources de crise souvent ?
Oui, effectivement. Alors le week-end, souvent, il se passe plein de choses. Il y a eu toute la semaine de travail et on se retrouve en famille, en couple. Et souvent, c'est aussi non seulement un lieu de détente, mais aussi un lieu de crispation et de conflit. Et donc le lundi, c'est une manière de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et au moment où on se retrouve seul, de pouvoir venir déposer quelque chose plutôt que de rester enfermé en soi et avec son interprétation.
Aux appels de la permanence téléphonique, il y aura peut-être non pas des cas de difficultés conjugales, mais plutôt de violences conjugales. Vous avez les armes pour y répondre ?
Tout à fait, dans la mesure où on travaille en réseau et que notre volonté est de pouvoir aiguiller les personnes vers le service compétent pour les aider parce que des fois, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc l'idée, c'est pas de se substituer à ces services, mais de pouvoir les rediriger là, si nécessaire.
Et ça commencera donc le 6 décembre, donc une permanence téléphonique tous les lundis de midi à 14h. Nicole Bonnet, merci. Vous êtes conseillère conjugale au CSP en direct de notre studio de Bienne. Vous répondiez à l'invitation d'Alexandra Richard. Bonne journée à vous.
Merci.
Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU SIDA a annoncé la semaine passée que l'épidémie reculait lentement. Or, certains pays, notamment en Afrique, ont toujours de la peine à enrayer la maladie. C'est le cas du Swaziland, pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Il détient le taux d'infection au VIH le plus élevé au monde. Les précisions de Céline Tso.
Au Swaziland, 26% de la population vit avec le sida. À une grande partie est également contaminée par la tuberculose, une co-épidémie qui décime ce pays depuis plusieurs années. Présent depuis 2008 dans la région, Médecins sans frontières a dû s'adapter à un contexte difficile pour aider les personnes infectées. Aymeric Péguillon, chef de mission MSF au Swaziland.
Les patients dont la majorité viennent de zones rurales et ont énormément de difficultés à se déplacer à cause du coût exorbitant des transports dans le pays, ont du mal à se rendre à plusieurs reprises dans les centres de santé. Donc il est impératif qu'on puisse leur proposer des soins adaptés le plus près possible de leur zone de résidence, mais aussi qu'ils puissent être pris en charge par la même personne au même moment pour la co-infection.
Et pour épauler ces malades, pour éviter qu'ils n'arrêtent leur traitement, MSF a décidé de s'appuyer sur des patients experts. Une façon aussi de combler le manque de personnel soignant qualifié.
Le patient expert, par définition, c'est quelqu'un qui est sous traitement, qui est généralement stable, et puis qui a peut-être été aussi contaminé au niveau de la co-infection, donc par la tuberculose, et donc qui a guéri de la tuberculose. Le rôle du patient expert, c'est de conseiller, de faciliter la prise du traitement, de renforcer l'adhérence auprès d'autres patients.
Des patients séropositifs mais stables, c'est le cas de Zodwa. Cette patiente experte encourage ses compatriotes à se faire dépister et les aide au quotidien. Une relation privilégiée, différente du lien traditionnel médecin-patient.
J'ai décidé de devenir patiente experte pour aider les malades à poursuivre et à terminer leur traitement. Ils me font confiance, ils savent que je vais garder leurs secrets, comprendre leurs problèmes et je leur dis bien que je ne suis pas qu'une infirmière.
Et pour MSF, déléguer une part des tâches médicales à ses patients experts est aussi une manière de les aider. Originaire de la côte, Marie-Jean Paré est coordinatrice MSF au Swaziland.
L'idée, c'est vraiment de donner plus d'importance et plus d'autonomie et de reconnaissance de ces personnes qui sont positifs VIH, parce qu'ils peuvent vraiment confronter leur expérience, ce qui donne beaucoup plus de poids.
Malgré les efforts des ONG sur place, l'espérance de vie au Swaziland a diminué de moitié ces 20 dernières années, passant de 60 à 31 ans.
Un dossier de Céline Tso.
Le 12-30, Natacha von Kutzum.
Et le plaisir d'accueillir dans ce journal le PDG d'Universal France, Pascal Nègre. Bonjour.
Bonjour Natacha.
En direct de notre studio de Paris pour parler de votre livre « Sans contrefaçon » paru aux éditions Fayard. Bah, commençons par le commencement, Pascal Nègre. Hein. Premier concert, c'est celui de Michel Fugain et le Big Bazar pour vous, passionné de musique depuis toujours. Vous dites pourtant, si je rêve d'un métier, c'est d'archéologie. Alors expliquez-nous ce grand écart entre vouloir être archéologue et devenir PDG d'Universal France.
Le hasard, voilà. Donc effectivement, quand j'étais adolescent, c'est vrai que j'étais assez fasciné par l'Égypte et l'archéologie. Et puis en fait, l'arrivée des radios libres en 81 fait que ben je saute le pas et puis je me mets à être présentateur sur une petite radio dans l'ouest de Paris. Et puis ensuite programmateur. Et c'est là où je découvre toutes les musiques. Et c'est vrai que j'ai eu la chance à ce moment-là de découvrir les grands classiques de la chanson française, mais aussi le rock international, mais aussi toutes les musiques à danser et la musique classique, la musique jazz. Ce qui fait que j'ai une culture musicale. C'est là où je me suis forgé ma culture musicale. Mmh. Et puis de fil en aiguille, eh bien j'arrive dans le disque.
Mais d'ailleurs, vous parlez effectivement de la folie lambada des années 80, on s'en souvient tous. Et puis vous évoquez également une Mariah Carey qui connaît pas du tout le playback. Hein. Elle veut chanter en direct. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de spontanéité dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense que Maria, à l'époque, elle avait étonné tout le monde, parce que c'était la première fois qu'elle venait faire de la promotion, c'était en 88, c'était son premier album, elle était toute jeune, toute mignonne, toute menue, et tout à coup, elle va faire une émission de télé, sacrée soirée, et au moment où on arrive, elle dit, mais moi, je sais pas faire un playback complet, moi, il faut que je chante. Et alors, on dit à l'émission de télé, bah, elle veut chanter, alors ça ne raconte pas ce que nous raconte l'émission de télé, on n'a pas le temps, nous fatigue, etc. Et puis tout à coup, on lance quand même le playback orchestre, elle prend le micro, elle chante. Et tout le monde, tout à coup, était émerveillé parce que Mariah Carey, c'est une grande chanteuse.
Mariah Carey.
Donc voilà. Ouais. Alors, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, ça a pas changé. D'ailleurs, regardez, la plupart des émissions aujourd'hui de télé, on peut que s'en réjouir. La plupart des émissions sont en direct et les artistes peuvent chanter en direct et jouer avec leurs musiciens, ce qui est une très bonne chose.
Et puis, vous racontez aussi une anecdote avec le chanteur suisse Stéphane Eicher. Hein, quand vous étiez chez Barclay, vous étiez attaché de presse. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler cette rencontre?
Quand je suis arrivé effectivement chez Barclay, j'étais passé d'attaché de presse à patron de Barclay, et Stéphane avait l'habitude de travailler avec l'ancien patron qui était Philippe Constantin, qui est un très très grand directeur artistique, qui nous a quitté depuis d'ailleurs, et qui avait signé Stéphane. Et Stéphane, notre première rencontre, on discute, et Stéphane, très sympa, et à un moment donné, il me dit quand même, tu sais, il y a un truc qui me gêne, c'est que t'es plus jeune que moi, quoi, et que moi j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui sont plutôt plus vieux, ça me rassure. Bon, et ensuite, eh bien, il y a eu l'album Engelberg avec Déjeuner en paix, avec Pas d'amis comme moi, et voilà, et ça a été le grand album de Stéphane, qui a connu un succès absolument incroyable, parce qu'on a vendu plus d'un million et demi d'exemplaires. Et je fais remarquer d'ailleurs que si on regarde la pochette de cet album, on voit Stéphane, les chevaux au vent,
de profil,
avec les Alpes,
ouais,
derrière, mmh, de profil, où il est magnifique. Et quelque part, pour les Français, inconsciemment, il y a une même gravure qui est Napoléon quand il essayait de franchir les Alpes, et il y avait ce côté les cheveux dans le vent, etc. Donc je sais pas si l'inconscient français a été touché par cette pochette, mais pour sûr c'est la seule fois où avec Engelberg Emigeux, qui était un titre en suisse allemand, eh bien on a fait un top 10 des ventes en France avec une chanson qui chantait en suisse allemand.
Pascal Nègre, Universal, c'est près de 28% du marché mondial de la musique, plus de 40% du marché en France, et dans cet ouvrage, hein, Sans contrefaçon, on sent votre volonté de rappeler que vous aussi vous perdez de l'argent avec vos productions malgré ce succès que vous avez dans le milieu. Pourquoi c'est important pour vous de le dire? Nous aussi on perd des sous chez Universal.
Parce que je pense qu'il y a plein de préjugés, et on a l'idée que le producteur il gagne plein d'argent, l'artiste gagne pas grand chose. Je dirais pas que le producteur est voleur, mais un peu ça. La réalité, d'ailleurs, je publie des comptes d'exploitation dans le livre. C'est que quand un artiste fonctionne, dans le meilleur des cas, le producteur va gagner autant que l'artiste, mais la plupart du temps, l'artiste va gagner plus d'argent que nous. La deuxième chose que j'explique, c'est que quand on signe 8 nouveaux artistes, il y en a un qui connaît le succès, et il y en a 7 qui connaissent pas le succès, donc sur lequel on perd de l'argent. Je rappelle enfin que le chiffre d'affaires d'Universal Music en France, c'est le chiffre d'affaires d'un hypermarché. Voilà, donc quand on me dit Universal, la grande major, mais qu'est-ce qu'on est par rapport à Google, par rapport à Apple ou par rapport à Orange? Voilà, on est des petits acteurs économiques, même si médiatiquement et culturellement, on a un poids très important.
Un empêcheur de pirater en rond, vous vous décrivez comme ça. Évidemment, on va vous parler du téléchargement illégal, puisque on vous a entendu pas mal de fois vous exprimer sur ce sujet. On sait que la question est sensible. Vous parlez de l'abonnement payant, un petit peu comme un buffet à volonté. Pour vous, ça permet vraiment de lutter contre le téléchargement illégal qui, malheureusement, est toujours très très présent.
Alors, vous savez qu'en France, il y a une loi qui est sortie depuis un an, qui s'appelle la DOPI. Sachez que depuis un an, le marché de disques en France est en légère progression, alors que ça faisait 5 ans que le marché chutait entre 10 et 15% par an. Ce qui semblerait prouver que la loi fonctionne. La deuxième chose, c'est que je pense que un des grands modèles révolutionnaires, entre guillemets, dans le numérique, va être l'abonnement. Vous paierez un abonnement. Il y a des boîtes qui existent, Deezer, Spotify. Vous paierez un abonnement. Vous aurez accès à toute la musique. Pour écouter ce que vous voulez, télécharger ce que vous voulez, faire des playlists, c'est-à-dire faire la liste des chansons que vous préférez, les échanger avec Facebook, avec vos amis. Donc c'est à la fois à pouvoir, effectivement, c'est le buffet, vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est à volonté. En même temps, vous pouvez partager, qui est quelque chose d'important pour les internautes. Et voilà, et vous paierez 5 euros ou 6 euros par mois. Donc, et je crois que ça, c'est l'avenir. Sachez qu'en France, en fin d'année, il y aura 600 000 abonnés musique, et on pense qu'il y aura 1,2 million, 1,3 million. En Suède, sachez que il y a plus de 12% des foyers qui sont aujourd'hui connectés à un abonnement musique, et c'est vraiment formidable.
En tout cas, toute cette position et bien d'autres choses sont expliquées dans votre livre. Évidemment, on n'aura pas eu tout le temps de tout aborder, malheureusement. Je vous remercie en tout cas, Pascal Nègre, d'avoir
Merci
fait
beaucoup,
un détour par nos studios de Paris. Je rappelle que vous êtes
c'est
évidemment
toujours un plaisir.
PDG d'Universal France. Sans contrefaçon, on le rappelle, qui est sorti donc aux éditions Fayard. Pascal Nègre, bonne journée, merci.
Vous aussi.
Voici la météo neigeuse de Pascal Bénard.
Il neigera encore souvent cet après-midi jusqu'en plaine et même abondamment sur l'ouest lémanique, la partie sud du Jura et le Gros de Vaud. Le Valais, longtemps protégé par l'effet de Föhn, n'essuiera que de petites averses de neige. Les précipitations s'espaceront progressivement. Elles cesseront selon les régions ce soir ou au cours de la nuit prochaine. Les températures atteintes en début de matinée en plaine, de 0 à moins 4 degrés, ne seront pas dépassées cet après-midi. Les thermomètres indiqueront moins 7 degrés vers 2000 mètres. mètres. Quelques giboulées ne sont pas exclues demain le long du Jura et des Préalpes, où les nuages peineront à s'évacuer. Ailleurs, des éclaircies se développeront. Le soleil sera même assez présent au-dessus des régions de plaine. Le vent d'ouest soufflera plus modérément que prévu. Les températures n'évolueront pas beaucoup. Là où le soleil se montrera plus souvent, la limite du 0 degré sera légèrement dépassée. Les conditions s'annoncent semblables vendredi.
La météo, avec la campagne de prévention vignette de ski du BPA, bpa.ch. Infotrafic RSR.
Plusieurs accidents provoquent des fermetures de route ou perturbent la circulation dans le canton de Vaud. C'est le cas entre Prévrange et Saint-Sulpice, Pantala et Cossonay, Alamant et Aubonne, ainsi qu'à Prie, entre le carrefour du Solitaire et le carrefour du Chasseur. Et pour rappel, les chauffeurs de poids lourds qui souhaitent se rendre dans la région Rhône-Alpes et qui sont bloqués dans la région de Genève peuvent se rendre au parking 47 situé aux abords de l'aéroport. Fin de ce journal, merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer et à la rédaction. Demain, dans le journal de 12h30 sur la première, nous recevrons l'humoriste français Jonathan Lambert en direct depuis Montreux. Excellent après-midi, il est 13h sur la première.